Bon, donc je vous remercie d'être là pour cette cinquième séance de ce cours consacré aux fonctionnalités des oxydes. Alors en fait, dans le cours d'aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir une bonne complémentarité entre le cours et le séminaire. Le séminaire va être donné par Darrell Schlom, qui est en visite pour deux jours en provenance de l'Université Cornell. Et Darrell est un des grands spécialistes mondiaux de la synthèse d'oxyde sous forme d'hétérostructure, comme vous voyez sur cette photo. Et il va nous parler en particulier dans son exposé d'hétérostructure de ruthénate, pas seulement, mais en particulier de ça. Et donc j'ai décidé de... Ah ben le voilà. So, Darrell, I was saying you are hungry for science, as this picture demonstrates. Et donc, il va nous parler d'hétérostructures de ruthénate en particulier, pas seulement. Il a aussi fait des très beaux travaux sur les hétérostructures de ferroélectriques et multiféroïques. Et donc, j'ai pensé que c'était bien de faire un cours qui soit consacré plutôt à une introduction assez large aux ruthénates et en particulier à leur structure électronique. Donc le cours d'aujourd'hui constitue une introduction au ruthénate et en particulier, je vais entrer assez dans les détails sur le composé strontium-2-ruthénium-O4, qui est donc le composé à un seul plan de la série de Hoodless-Denpepper, comme vous allez voir tout à l'heure. Alors la famille des ruthénates, c'est une famille très intéressante où chacun des matériaux a une personnalité bien particulière, comme dans les familles qui sont ici. En particulier, je voudrais, juste dans ce premier transparent, après je vais surtout me consacrer sur celui-là, donc en mettre trois en lumière. Strontium-2-ruthénium-O4, donc je vous rappelle la structure cristalline de la série de Hoodless-Denpepper, qui a cette formule-là en particulier générale. Donc, R, ça peut être une terre rare, par exemple. M est, M est le métal de transition qui nous intéresse, et O est l'oxygène, bien sûr. Pour N égale 1, on a donc des familles à un seul plan, comme vous le voyez ici, donc peut-être c'est un petit peu plus clair ici. Vous avez ces plans métal-oxygène 2, hein, qui sont séparés par des plans de type strontium-oxygène, dans ce cas-là. Quand vous allez vers N égale 2, vous avez des composés à deux plans, donc ça serait le cas de strontium 3, ruthénium 2, oxygène 7, et puis la limite N infini, si vous voulez, c'est la perovskite traditionnelle dont on a beaucoup parlé dans les cours précédents, qui pourrait être, par exemple, comme représenté ici, dans une structure parfaitement cubique, ou bien avoir des distorsions. Alors, dans le cas des ruthénates, toutes ces variétés existent et elles ont chacune des propriétés différentes. C'est ça qui fait l'intérêt de cette famille, entre autres. Si vous prenez la perovskite infinie, strontium-ruthénium-O3, strontium-ruthénium-O3, c'est un métal itinérant et c'est aussi un ferromagnétique en dessous d'une température de Curie qui est relativement élevée. Et c'est un matériau qui est assez souvent discuté comme un candidat possible pour des applications en spintronique quand on a besoin d'une électrode métallique ayant des propriétés magnétiques. Donc ça, c'est un matériau intéressant. Il y a aussi de la physique fondamentale intéressante associée à ces perovskites, à ces ruthénates 1-3. Par exemple, calcium-ruthénium-O3 est aussi un métal itinérant, un peu plus distordu, mais il n'est pas ferromagnétique du tout. Donc la question, par exemple, est de savoir pourquoi. Ce matériau-là est un peu exotique aussi. C'est également un métal. Il n'est pas ferromagnétique, mais il a de fortes fluctuations magnétiques. Et sous champ magnétique, il a un comportement qu'on appelle métamagnétique, c'est-à-dire avec une très grande non-linéarité de l'aimantation en fonction du champ. Et puis finalement, donc, ce matériau a un plan, strontium-2-ruthénium-O4, qui est un métal, un bon métal à basse température, avec des propriétés de liquide de Fermi en dessous d'une certaine température de l'ordre de 25 Kelvin à peu près, vous allez voir ça tout à l'heure. Et il a fait un peu la une au moment de sa découverte, il y a un peu plus maintenant d'une vingtaine d'années, parce que c'est un supraconducteur avec des propriétés supraconducteurs avec un pairing de symétrie exotique, dans lequel le couplage spin orbite joue probablement un rôle important. Et la nature exacte de la phase supraconductrice n'est pas encore tout à fait l'objet d'un consensus pour ce matériau-là. Et comme je vais vous le montrer, au-delà de ses propriétés de basse température, des propriétés de liquide de Fermi, de supraconductivité, ce matériau a également, est également intéressant en ce qui concerne l'ensemble des crossovers qui sont observés en fonction de la température et soulève pas mal de questions fondamentales intéressantes. Donc, la suite du cours va être entièrement focalisée sur ce matériau à un plan, strontium-2, ruthénium-O4. Alors, strontium-2, ruthénium-O4, c'est un matériau qu'on peut un petit peu considérer comme, si vous voulez, l'hélium-3 de ce domaine des oxydes de métaux de transition, une sorte de matériau de test. Pourquoi ? Parce qu'on peut synthétiser, et ça c'est vraiment les choses qu'ont fait Yoshima Eno à Kyoto, on peut synthétiser des monocristaux extraordinairement purs et extraordinairement gros. Donc voilà l'exemple, l'échelle est bien correcte ici, c'est bien un monocristal de 10 cm de long. Et donc vous voyez que qui est très pur, avec des résistivités résiduelles à basse température très faibles. Et donc vous voyez que c'est le rêve du physicien de la matière condensée ou du chimiste de la matière condensée, et en particulier la possibilité de synthétiser ces monocristaux très purs et de grande taille, va permettre de faire toute une série d'expériences qu'il est souvent difficile de faire dans d'autres oxydes. Par exemple, très très tôt, pour ce matériau, on a pu faire des oscillations quantiques, donc ces expériences sous champ magnétique faible qui permettent de faire une topologie de la surface de Fermi très détaillée, vous allez le voir dans la suite, de mesurer la masse effective des quasi-particules. Comme vous le savez certainement, dans les cuprates supraconducteurs, qui sont des matériaux moins propres, il a fallu attendre beaucoup de temps pour qu'on puisse faire des expériences analogues de ce type. Donc on peut dire que ce matériau a été regardé sous toutes les coutures avec pratiquement tous les outils expérimentaux, spectroscopie, transport, neutrons, tout ce que vous voulez, qui sont disponibles dans la boîte à outils de l'expérimentateur de la physique de la matière condensée. Avec mon collègue Yernaï Moravier, qui est présent dans la salle, on a trouvé une expérience pour laquelle il n'y avait pas de données, un type de mesure, je le mentionnerai peut-être vers la fin, mais il a fallu qu'on réfléchisse beaucoup avant de trouver une mesure qui n'avait pas été faite sur ce matériau. Ce matériau était très étudié à partir de sa découverte au milieu des années 90, bien entendu à la suite de la découverte des cuprates supraconducteurs. Vous voyez que c'est un analogue structural parfait des cuprates. Il est même encore un petit peu mieux que l'antenne de cuivre oxygène 4, puisqu'il est parfaitement tétragonal. Une belle phase tétragonale à un plan. Et il y a des très beaux articles de revue sur ce matériau, en particulier cet article de Mackenzie et Maino dans Review of Modern Physics, il y a maintenant déjà une quinzaine d'années, et puis un article extraordinairement détaillé et précis sur les oscillations quantiques permettant de faire la cartographie de la surface de Fermi, qui est cet article-là. Alors, j'ai oublié de mentionner quand même un membre additionnel de cette grande famille des ruthénates, un peu un individu hors série, je dirais, un outlier, on dirait en anglais, qui est le composé calcium-2-ruthénium-O4. Donc en fait, on peut préparer toute la solution solide calcium-2-X, strontium-X-ruthénium-O4. Et il se trouve que quand on va jusqu'au composé où il n'y a plus de strontium, mais uniquement du calcium, calcium-2-ruthénium-O4, ce matériau est un isolant. Et c'est un des rares oxydes de métaux de transition de la série 4D, hein, puisque là, on parle de la série 4D des métaux de transition, qui a une structure perovskite et qui soit isolant. Je ne pense pas que j'y reviendrai dans la suite, mais peut-être à la fin du cours, je vous dirai pourquoi ce matériau est isolant. C'est un isolant de Mott, mais un peu particulier. Et c'est assez intéressant de comprendre pourquoi ce matériau-là se comporte de manière différente des autres. Puis entre calcium 2 ruthénium O4 et strontium 2 ruthénium O4. Ah oui, j'aurais dû montrer ici que l'axe était X, d'accord, qui varie entre 0 et 2. Eh bien, il y a toutes sortes de phases intéressantes dont je ne vais pas avoir le temps de parler dans ce cours puisque je vais me consacrer sur strontium 2 ruthénium O4. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, après cette espèce de panorama de la famille des ruthénates, c'est vous donner une compréhension extrêmement simple, avec les mains, d'abord, pour commencer, de la structure électronique de ce matériau. C'est pour ça que j'ai laissé la lumière ouverte, parce que je vais me servir un petit peu du tableau. Alors, donc, on a affaire à un métal de transition de la série 4D, donc avec des orbitales D qui sont relativement étendues. Le matériau est tétragonal, donc, cours précédent, il y a une levée de dégénérescence entre un multiplet T2G et puis un multiplet EG, enfin un doublet EG et un triplet T2G. Le triplet T2G est bien sûr plus bas en énergie puisqu'on est en environnement octaédral. Et comme vous le voyez ici, comme le strontium est 2+, le ruthénium est 4+, ce qui veut dire que on a 4 électrons dans la couche D du ruthénium. Donc on a 4 électrons dans la couche T2G du ruthénium. On parle donc d'orbitales T2G, qui sont des orbitales qui ne pointent pas directement vers les oxygènes, comme vous le savez, donc qui ont un recouvrement pi avec les orbitales d'oxygène. Alors, quand on regarde la surface de Fermi en ARPES, donc en photoémission résolue en angle de ce matériau, qui est représenté ici dans le plan, dans la zone de Brillouin bidimensionnelle du réseau carré KX, KY. Ça suffit de le regarder comme ça pour l'instant, puisque c'est un matériau qui est très fortement anisotrope. Donc on va d'abord regarder une coupe de la surface de Fermi dans le plan bidimensionnel. Donc vous voyez que cette surface de Fermi peut a priori vous paraître relativement compliquée, puisqu'elle possède 4 feuillets. Vous voyez, il y a une espèce de surface de Fermi un peu carrée ici, qui s'appelle traditionnellement le feuillet bêta, quelque chose d'un peu plus circulaire ici et un peu plus grand, qui contient un peu plus d'électrons, qui s'appelle le feuillet gamma. Et puis ici, il y a 4 carrés reconstruits qui s'appellent le feuillet alpha. Et alors, ça peut sembler un petit peu compliqué, mais en fait, ça peut se comprendre extrêmement simplement. Je vais essayer de vous faire un dessin au tableau. En réfléchissant à la manière dont ces différentes orbitales communiquent entre elles. L'orbitale dxy, comme représentée là-haut, elle est très fortement bidimensionnelle, elle pointe dans les plans, hein, et donc elle va avoir des sauts faciles selon les axes x et y du cristal. Donc, ça c'est mon cristal. Et je vais avoir mes orbitales dxy, bon, je suis très mauvais en dessin, hein, comme ça, qui vont donc s'hybrider de manière pi avec les orbitales d'oxygène, et on va donc avoir un saut t ou moins t qui va être grand dans les deux directions. Et donc ça, en première approximation, ça va nous donner une surface de Fermi, donc ici je vais dessiner la zone de Brillouin bidimensionnelle, Kx, Ky, avec le point gamma ici, 0, 0. Et puis, moins pi sur a, pi sur a, moins pi sur a, pi sur a, c'est censé être un carré. Et donc, vous voyez ici que cette surface de Fermi va produire quelque chose qui va être en fait relativement circulaire, parce qu'il y a ici aussi, si je dessine la quatrième orbitale qui est là, il y a aussi ici, comme vous allez le voir tout à l'heure, un saut, moins T1, qui est relativement grand, qui, lui, est un recouvrement direct selon la diagonale entre ces orbitales. Donc tout ça va nous donner, dans ce plan, un feuillet, une surface de Fermi, qui n'est pas tout à fait circulaire, mais presque circulaire, disons, et qui est donc ce feuillet qu'on appelle gamma, qui est principalement dû aux orbitales dxy, qui ont un très bon recouvrement dans les plans et donnent une bande bidimensionnelle avec une largeur de bande qui est assez grande. Elle est assez grande parce qu'on a affaire à des orbitales 4D qui sont assez étendues. Et donc, quand vous allez le voir dans le transparent suivant, la largeur de bande de l'orbitale dxy est presque 4 électronvolts. Donc, c'est quelque chose qui est relativement grand. Et puis maintenant, si je m'intéresse aux orbitales dxz, Donc vous voyez les orbitales, par exemple, dxz, elles vont avoir des lobes qui vont pointer dans la direction x, mais elle est tournée comme ça, hein, et donc les autres lobes pointent selon la direction z, où le paramètre de maille et la maille unité est très, très étendu, hein, puisque c'est décomposé à un plan, et donc le hopping, l'intégrale de transfert selon la direction z, est très faible. Donc le principal saut interorbital des orbitales dxz va être selon la direction x, avec un tout petit saut selon la direction y. Alors ça, ça donne une surface de Fermi dans le plan xy qui est très peu dispersive et qui est principalement une surface de Fermi, si vous voulez, comme ça, qui sont deux valeurs de K Fermi selon x et très peu de dispersion selon y. Alors ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a évidemment une petite dispersion selon y aussi, comme vous allez le voir tout à l'heure. Et puis même raisonnement pour les orbitales dyz, qui cette fois sont principalement dans la direction y et vont donner une surface de Fermi comme ça. Alors ça, c'est ce qui se passerait si les dxz et les dyz n'avaient pas d'hybridation. En fait, à travers des sauts plus distants, il y a une petite hybridation. Et donc, il y a une reconstruction de cette surface de Fermi ici, au point d'intersection, hein, en une surface presque carrée, comme ça, qui est à l'intérieur de la surface rouge. Donc maintenant, j'efface ça, qui est donc le feuillet bêta. Et puis, des poches comme ça, disons de type plutôt trou, qui sont au coin de la zone de Brillouin et qui constituent le feuillet alpha. Donc vous voyez comment, avec juste un tout petit peu d'intuition sur les recouvrements entre orbitales et leur directionnalité, on peut assez facilement expliquer la forme de la surface de Fermi ici. Donc vous reconnaissez ici la surface de Fermi presque circulaire qui est due aux orbitales dxy, le feuillet gamma. À l'intérieur, cette surface de Fermi presque carrée qui va être une combinaison de xz et yz selon l'endroit où on regarde, dans mon point K. Et puis ici, les feuillets alpha est tout à fait similaire à ce qui est représenté ici. Alors, il faut signaler que l'établissement fiable par Arpès de cette surface de Fermi est quelque chose qui a pris pas mal de temps. Après la découverte de ce matériau, il y a une assez longue controverse qui venait de l'existence d'une reconstruction de surface très forte qui faisait que la surface de Fermi mesurée par les oscillations quantiques et la surface de Fermi mesurée dans les premières expériences d'Arpès n'étaient pas en accord l'une avec l'autre. Et je crois que c'est juste de dire que c'est André Damascelli, dans cet article très cité de 2000, qui a clarifié cette question, montré la reconstruction de surface et finalement établi une surface de Fermi par photoémission résolue en angle qui est en bon accord avec les oscillations quantiques. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un matériau dans lequel on peut faire des expériences, je dirais, de haute précision. Et donc, en fait, cette surface de Fermi est connue dans ses grands détails et il y a très peu d'oxydes pour lesquels vous pouvez voir une image comme ça. Donc, j'espère que vous appréciez l'œuvre d'art. Ça, c'est une reconstruction tridimensionnelle cette fois. Donc, vous reconnaissez Kx, Ky, avec le feuillet gamma en jaune, le feuillet central bêta au milieu un peu carré, et puis ces tubes alpha de cette manière-là. Vous voyez qu'il y a une dispersion selon Z, hein, une certaine ondulation selon Z, qui n'est pas nulle, qui est due au hopping selon Z, mais qui est faible. Et cette reconstruction-là provient des mesures d'oscillation quantique à basse température, en particulier menée dans l'équipe de McKenzie et collaborateurs à la fin des années 90. Voilà, donc une remarquable cartographie, je dirais, de la surface de Fermi, qui par la même occasion démontre l'existence de bonnes quasi-particules avec des durées de vie très longues qui se forment à basse température, puisque dans un matériau, pour pouvoir observer ces oscillations quantiques, il faut que le libre parcours moyen soit grand pour qu'on ait le temps de faire des oscillations avant de rencontrer une collision. D'accord ? Et donc voilà, par exemple, une des mesures où vous voyez l'oscillation, ça doit être ici de l'aimantation, c'est du De Haas van Alphen, en fonction du champ magnétique, vous voyez ces magnifiques oscillations quantiques qui permettent de reconstituer cette surface de Fermi. Bon, alors je vais peut-être vous donner quelques éléments un tout petit peu plus précis. Donc, comme j'ai dit que c'était simple, ça doit vouloir dire qu'on peut représenter la dispersion des orbitales par un modèle de liaison forte très simple. On peut bien sûr faire des calculs de structure électronique, ça c'est un exemple ici, mais on peut aussi décrire ça un petit peu avec les mains par un modèle simple. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc là, j'ai représenté un peu mieux les différentes orbitales et leur hybridation pi avec les orbitales d'oxygène qui sont entre les deux. Je vais essayer de vous faire comprendre quelles sont les intégrales de transfert entre ces orbitales. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a une intégrale de transfert moins t qui est la principale, hein, qui est directionnelle selon x et selon y. Si on cherche à paramétriser la surface de Fermi et les bandes, la surface de Fermi calculée, plus exactement les bandes d'énergie calculées par les méthodes de structure électronique par ce modèle de liaison forte, il va falloir mettre un hopping T, j'ai dû écrire ça quelque part, voilà, qui est de l'ordre de 0,4 EV. Donc vous voyez quelque chose de relativement grand. Et puis, il y a aussi une intégrale de transfert directe, T1, selon les diagonales. C'est pour ça que le feuillet gamma est relativement circulaire. Alors en fait, à la fois T et T1 sont positifs, et en préparant ce cours, je me suis demandé pourquoi. Pour T1, c'est normal, puisque c'est une intégrale de transfert direct, donc moins T1 est un élément de matrice d'interaction de Coulomb qui est attractif, donc c'est, quand on a un transfert direct, T1 est toujours positif. Mais ici, le hopping se fait par les oxygènes. Et donc, je vous vends cet argument ici, que j'ai tiré d'un article de Dana Ovas et collaborateurs, et qui, je pense, est un argument juste, qui consiste à dire que si vous évaluez, comme on l'a vu dans un cours précédent, cette intégrale de transfert au second ordre en théorie de perturbation dans l'intégrale directe entre les oxygènes et les cuivres, vous allez obtenir que moins T, c'est quelque chose qui est le produit de deux intégrales de transfert PD, divisé par un dénominateur d'énergie qui est le transfert de charge entre le ruthénium et l'oxygène. Et vous voyez à cause du signe des lobes ici, hein, ici vous voyez que cet orbital pointe vers le lobe rouge, ici vers le lobe bleu, les TPD en sont de signes opposés. Donc vous avez TPD fois moins TPD divisé par un dénominateur d'énergie qui est bien sûr positif, parce que les orbitales d'oxygène se trouvent à une énergie inférieure aux orbitales de ruthénium. Donc cette expression ici est négative et donc T est positif. Donc à la fois T et T1 sont des intégrales de transfert qui sont toutes les deux positives. Je mentionne ça parce que dans les cuprates supraconducteurs, où on a une structure de bande finalement relativement analogue, la physique du couplage du transfert selon les diagonales, ce qu'on appelle en général T' dans le contexte des cuprates, est différente. Elle se fait par hybridation avec les orbitales 4s du cuivre et les oxygènes apicaux, et le signe de T et T1 sont opposés. Voilà, mais donc dans ce contexte d'orbital T2G avec une liaison pi, c'est comme ça que ça marche, et effectivement pour avoir un bon fit de la dispersion des bandes calculées en structure électronique, il faut mettre T et T1 positifs, avec évidemment T1 qui est à peu près un facteur 3 plus petit que T. Bon, alors on peut recommencer cette analyse maintenant pour les orbitales XZ et YZ, et on trouve des choses comme ça. Le couplage très directionnel dont je parlais tout à l'heure, donc ça c'est l'intégrale de transfert entre orbitales YZ, on aurait de même quelque chose de très directionnel ici pour les orbitales XZ, comme vous voyez ici. Donc cette intégrale de transfert, je l'ai appelée moins T2. Et puis ici, de nouveau, évidemment, il y a aussi un petit couplage qui permet aux électrons dans l'orbital XZ de sauter selon la direction Y. Ce couplage existe, mais il est très faible. Et vous voyez, effectivement, T2 est de l'ordre de 0,30 EV, T3 est 10 fois plus petit, mais on peut en tenir compte pour avoir un meilleur fit des bandes d'énergie. Ici, j'ai mis T3 positif, mais je ne suis pas sûr que ce soit complètement correct. En fonction de l'argument précédent, il est possible que... Je réserve ma réponse sur cette question. Il y a aussi, et c'est ce qui est responsable de la reconstruction des feuillets alpha et bêta au point de croisement ici, dont je parlais au début du cours, il y a aussi un couplage selon les diagonales qui lie les orbitales XZ et YZ entre elles. Et ce petit couplage... a en fait un signe différent selon les deux diagonales, la raison étant que selon une des diagonales, c'est la composante paire de ces orbitales qui s'hybrident, et selon les antidiagonales, c'est la composante impaire. Et ça, ça induit un changement de signe selon les deux diagonales. Donc, au final, si vous voulez un modèle de liaison forte pour ce système, qui décrit bien la structure de bande calculée en LDA, eh bien, vous aurez une bande qui est à peu près toute seule, qui a, je répète, un hopping T1 plus petit selon les diagonales, qui va être donc décrit par cette simple expression-là, et puis une matrice 2-2 pour les orbitales XZ et YZ, qui va avoir une composante diagonale qui est liée au couplage T2 et au petit couplage T3, et puis une composante off-diagonale qui est liée au petit couplage T4. Donc voilà une description de liaison forte de la structure électronique de strontium de ruthénium au 4. Et la structure de bande, quand on regarde les bandes calculées par les méthodes, je dirais, état de l'art de la structure électronique, ou d'ailleurs ce modèle de liaison forte qui donne une bonne description des bandes, on trouve quelque chose comme ça. Alors ça, c'est représenté selon le trajet gamma MX dans la zone de Brillouin. Alors pour ceux comme moi qui ne savent jamais où sont ces différents points, le point gamma est ici, le point M est ici au centre de la face, et le point X est ici au coin de la zone de Brillouin. Et donc vous voyez ici, on représente les choses selon le trajet centre, milieu de la face, sommet, et puis on revient à gamma. Et donc ce que vous voyez ici, c'est une grande bande très dispersive qui est la bande XY, avec une largeur de bande qui est presque 4 électronvolts, pas tout à fait, 3,7, quelque chose comme ça. Et puis vous avez deux bandes XZ et YZ qui ont une largeur de bande qui est en gros deux fois plus petite. Pourquoi deux fois plus petite? Parce qu'il y a seulement des transferts selon une des directions. Donc la largeur de bande est en gros deux fois plus faible que la largeur de bande des orbitales XY. Vous observerez ici que, par exemple, les deux bandes qui sont principalement XZ et YZ sont exactement dégénérées dans ce calcul au point X. Et ça révèle en particulier que ce calcul est un calcul sans couplage spin-orbit. Vous allez voir dans la suite, à la fin du cours, l'effet du couplage spin-orbit sur cette structure de bande qui lève certaines dégénérescences. Alors, si vous regardez la densité d'état de ces différentes orbitales, donc ça, c'est la densité d'état projetée sur ces différentes orbitales, vous voyez ici une densité d'état qui est celle de l'orbital XY qui est caractéristique d'une bande bidimensionnelle avec une singularité de Van Hove ici qui est très proche du niveau de Fermi. Ça va jouer un rôle dans la physique de ce matériau. Et puis, une densité d'état XZ et YZ où les singularités sont, elles, au bord de bande. Et ça, c'est caractéristique d'une bande quasi unidimensionnelle. Donc, vous voyez qu'on comprend facilement les choses avec les mains pour la structure électronique de ce système. Bon, alors maintenant, je voudrais vous présenter la principale question. J'aime bien qu'il y ait des questions dans les cours qu'on résout au cours du cours. Si possible avant la fin du cours. Et donc la question principale que je voudrais poser, c'est la suivante. On a affaire ici à un oxyde de métal de transition qui est un métal de transition de la série 4D, avec donc des orbitales qui sont relativement étendues et on a vu des largeurs de bande qui peuvent être grandes, autour de 4 eV. Pour la même raison, parce qu'on a affaire à un métal de transition 4D, l'interaction de Coulomb écranté, le U de Hubbard, qu'on a vu plusieurs fois dans ce cours, va être relativement faible. En fait, on peut estimer la valeur de ce U de Hubbard dans une description T2G appropriée pour ce système, et on trouve une valeur qui est autour de 2,5 eV. Donc on est dans un régime où le U de Hubbard est plus petit, en gros d'un facteur 2, que la plus grande largeur de bande en présence dans le système. Donc a priori, on devrait s'attendre si on réfléchit en termes de physique de Mott, par exemple, on devrait s'attendre à avoir un métal qui ait des effets de corrélation relativement faibles. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on observe dans les observations expérimentales. On observe au contraire un métal qui, certes, est un bon métal par les standards des oxydes à basse température, mais qui a des signes de corrélation tout à fait évidents. Vous allez en voir plusieurs dans la suite. Par exemple, une susceptibilité magnétique qui, jusqu'à très basse température, ne suit pas une loi de Pauli, mais indique plutôt des moments magnétiques fluctuants, un peu de type Curie-Weiss. Ça, c'est une première chose. D'autre part, comme on peut faire les oscillations quantiques et des expériences de photoémission résolues en angle précises, on peut regarder ce qu'on appelle la masse effective des quasi-particules, ou, si vous voulez, la manière dont la vitesse de Fermi des différentes bandes d'énergie, telle que mesurée en ARPES ou mesurée par oscillation quantique, est changée par les interactions par rapport à un calcul de simple structure électronique. Et on trouve que ces renforcements de masse effective, je vais revenir un petit peu plus tard sur la définition de ce terme, est grande. Le renforcement de masse effective pour les orbitales XY, donc celles du feuillet gamma, est de l'ordre de 5. Et pour les orbitales XZ et YZ, il est de l'ordre de 3. Donc ça, ce sont des valeurs qui sont comparables à celles, par exemple, d'un fluide quantique fortement corrélé, comme l'hélium-3 sous pression. Donc je vous ai dit que strontium-2 et ruthénium-4, c'était un peu l'hélium-3 des oxydes. Effectivement, dans l'hélium-3 sous pression, qui était un gaz quantique, un liquide quantique avec de fortes interactions, la masse effective à basse température est de l'ordre de 6. Le renforcement de masse effective est de l'ordre de 6. Donc vous voyez, c'est très comparable. Et ça indique un liquide de Fermi avec de fortes corrélations électroniques. Donc la question, c'est comment est-ce qu'il est possible d'avoir un système avec des largeurs de bande grandes, des U relativement faibles, aucun signe que ce matériau est vraiment proche d'une transition de Mott, et néanmoins des évidences que ce matériau est fortement corrélé, et c'est ça que je voudrais aborder dans au moins la première partie de la suite de ce cours. Alors, je vais peut-être revenir un petit peu sur la notion de masse effective pour ceux qui sont dans la salle et qui ne sont pas forcément tous familiers avec la physique à la physicienne, disons, des matériaux fortement corrélés. Je sais qu'il y a un certain nombre d'étudiants chimistes dans la salle et masse effective, ce n'est peut-être pas quelque chose que vous voyez tous les jours. Donc, je vais essayer d'expliquer ça rapidement au tableau. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est une expérience de photoémission résolue en angle, qui est d'ailleurs extrait d'un séminaire que vous pouvez trouver sur le site web, sur mon site web du collège, qui a été donné en 2012 par Félix Bauenberger, qui est un très bon expert de la photoémission résolue en angle, actuellement à l'Université de Genève, dans le cadre de mes cours du collège. Alors, je ne fais pas des cours sur la ruthénate tous les ans, mais il se trouve qu'il y avait eu un cours en 2012 sur ce sujet. Et il nous avait montré ses expériences de photoémission. Alors, ce que vous voyez ici, c'est en fonction de la quasi-impulsion de la zone de Brillouin, quand on parcourt la direction gamma M, donc on part du centre de la zone de Brillouin, on va au centre de la face ici. Ce que vous voyez ici, c'est le signal de photoémission. Donc, il y a une partie du signal qui est très intense, qui est représentée en clair, ici et là. Et ce signal de photoémission vous montre un pic qui traverse le niveau de Fermi, qui est ici, à certaines valeurs particulières de gamma. Alors, je pense qu'il y a une erreur dans ce transparent, parce que si ça, c'est gamma M, ça devrait être le feuillet bêta. Mais enfin, peu importe. Ce que vous voyez ici, c'est donc qu'il y a une quasi-particule qui traverse le niveau de Fermi. De l'autre côté du niveau de Fermi, on ne peut plus la voir, puisque c'est de la photoémission, et donc on ne voit que les états occupés. Et vous voyez qu'on peut regarder la vitesse de Fermi, puisque la manière dont l'énergie varie en fonction de K-KF définit la vitesse de Fermi, et comparer cette vitesse de Fermi à celle qu'on obtiendrait par un calcul de structure de bande, qui sont ces lignes vertes. Et vous voyez clairement que la vitesse de Fermi du feuillet gamma est beaucoup plus faible que ce qu'on prédirait par un calcul de structure électronique, et de même, la vitesse de Fermi du feuillet alpha est plus faible, c'est un peu moins le cas, mais un peu plus faible, que celle qu'on prédirait par un calcul de structure électronique. Donc voilà ici une autre expérience avec aussi Félix Bauenberger qui montre cette dispersion. Donc on peut extraire cette renormalisation de la vitesse de Fermi entre le calcul de structure électronique et la chose mesurée expérimentalement, Et c'est ça qu'on appelle le renforcement de masse effective, c'est l'inverse de VF star sur VF, qui est le renforcement de masse effective des quasi-particules. Les quasi-particules sont plus lourdes que celles que la valeur que nous donnerait un calcul de structure de bande, parce qu'il y a des interactions qui les empêchent d'avancer aussi vite qu'on pourrait le penser. On peut aussi extraire cette quantité à partir des mesures d'oscillation quantique, et au miracle, dans ce matériau, ces deux déterminations donnent des valeurs qui sont assez bien compatibles, donc c'est vraiment une quantité qu'on connaît. Et ce que vous voyez ici, c'est le renforcement de masse effective mesuré, cette fois je pense, par oscillation quantique, pour les feuillets alpha, bêta et gamma, et vous voyez que c'est de l'ordre de 3 pour les feuillets alpha et bêta, et c'est de l'ordre de 5 pour les feuillets gamma. Donc il n'y a pas de doute que ce matériau a des signes de forte corrélation à basse énergie, et une des questions, c'est pourquoi. Alors il y a une autre observation qui est assez intrigante, c'est que vous voyez que le feuillet gamma, qui correspond à la largeur de bande la plus grande, qui est de l'ordre de 4 électronvolts, est aussi celui, donc pour lequel l'énergie cinétique est grande, est aussi celui pour lequel le renforcement de masse effective est le plus grand. Alors ça, c'est assez étonnant, parce que vous pourriez vous attendre à ce que ce soit le feuillet avec la largeur de bande la plus faible qui ait le renforcement de masse effective le plus grand. Mais c'est l'inverse qui se passe, et ça, c'est aussi une question. Alors, je vais continuer un petit peu à vous intriguer sur ce transforme de ruthénium au 4. Tout ce que j'ai montré jusqu'à maintenant, c'est vraiment la structure des quasi-particules de basse énergie, principalement mesurée donc, dans le régime où il y a des bonnes quasi-particules, dans le régime de liquide de Fermi. Mais on peut aussi regarder ce qui se passe quand on augmente la température du système et comment ces quasi-particules deviennent progressivement de plus en plus incohérentes et qu'est-ce qui se passe dans ce matériau. Alors, en fait, dans ce matériau, il y a des crossovers en fonction de la température qui sont tout à fait intéressants. Et c'est quelque chose que vous voyez, par exemple, en transport. Donc, dans cette expérience ici, c'est une mesure de la résistivité en fonction de la température sur une très large gamme de température, vous voyez, jusqu'à presque plus de 1000 Kelvin. Et ce que vous voyez ici, c'est que la résistivité, d'abord, reste métallique, sur l'ensemble, dans le sens où dρ dt est positif, la résistivité croît avec la température, sur l'ensemble de cette gamme de température. Là, c'est la première observation. Si vous insistez sur le fait d'avoir une résistivité en t carré, caractéristique de quasi-particules cohérentes avec un liquide de Fermi, eh bien, ceci se produit, mais seulement à très basse température, en dessous d'environ 25 Kelvin. Donc, vous voyez que l'échelle caractéristique de cohérence de ces quasi-particules, où la théorie de Landau du liquide de Fermi devient valable, est quelque chose qui est deux ordres de grandeur plus petit que la largeur de bande. Plus de deux ordres de grandeur plus petit, 25 Kelvin par rapport à 40 000 Kelvin. Donc c'est quelque chose d'absolument de tout petit. Il y a une énorme normalisation entre les échelles électroniques naïves et la température de cohérence du liquide de Fermi. Et assez rapidement, au-dessus de 25 ou 30 Kelvin, la résistivité cesse d'être en T carré, mais le libre parcours moyen reste grand dans ce système, jusqu'à des températures qui sont plutôt de l'ordre de 500 K. Donc vous voyez qu'il y a toute une gamme de températures, environ une décade, où on a une résistivité qui n'est pas en T2, et où il y a un libre parcours moyen qui est néanmoins relativement grand, et où d'ailleurs des expériences de photoémission révèlent encore la présence d'un pic de quasi-particules dans la photoémission. Donc on continue à avoir des quasi-particules qui n'ont pas vraiment le temps de vie donné par la théorie de Landau, mais qui sont relativement cohérentes. Et puis c'est seulement quand on arrive autour de 600 K que ce liquide de Fermi devient, que ces quasi-particules sont complètement détruites. Et si vous faisiez une estimation du libre parcours moyen en appliquant un simple critère de Drud dans ce régime, vous trouveriez un libre parcours moyen qui deviendrait comparable à la maille du réseau, ou plus petit que la maille du réseau, au-dessus de 500 K. Et ça, c'est ce qu'on appelle le critère de Motioff-Regel. Donc, un système qui reste métallique, mais avec une résistivité qui n'est plus du tout, qu'on ne peut plus du tout décrire en termes de quasi-particules selon un modèle de Drude. Si on faisait ça, on trouverait un libre parcours moyen ridiculement petit, On appelle quelquefois ce régime ici un régime de mauvais métal. Et avant que ces expériences paraissent, au milieu des années 90, certains pensaient que ce type de comportement, c'est-à-dire un comportement métallique qui soit au-dessus de la valeur de Motioffer égale à haute température, impliquait automatiquement qu'à basse température, on ne pouvait pas avoir un liquide de Fermi. Mais vous voyez que cette expérience montre clairement que ce n'est pas le cas et qu'on peut très bien avoir un régime de mauvais métal à haute température et néanmoins un bon liquide de Fermi à basse température. Donc il y a ces crossovers, et c'est une question qui est assez intéressante, et vous allez voir dans la suite, d'essayer de comprendre quelle est la nature du système, en particulier dans cette zone noire ici, où on continue à avoir des quasi-particules dans le système, mais plus un vrai liquide de Fermi. Alors, j'ai montré ces crossovers pour insister sur les différentes échelles d'énergie qui sont en présence dans un système de ce type, et la manière dont on peut prendre le problème. Donc, vous voyez ici, sur une échelle qui va des hautes énergies vers la droite aux basses énergies vers la gauche, ce que vous voyez ici, c'est les différentes échelles d'énergie en présence. Donc, vous avez d'abord le U, ou la largeur de bande, qui serait la plus haute échelle du système, la largeur de bande pour les orbitales XY de l'ordre de 4 eV. Et puis vous avez U. U est de l'ordre de 2 électronvolts. Donc ça, c'est vraiment notre échelle de haute énergie. Si je continue à descendre le long de l'axe des énergies, la première échelle d'énergie que je vais rencontrer, c'est le couplage de Hund, qu'on peut estimer dans ce système autour de 0,3 eV, quelque chose comme ça, par différentes méthodes, je ne vais pas entrer dans les détails, qui est aussi comparable au hopping individuel dont j'ai parlé tout à l'heure. Au recouvrement aux intégrales de transfert entre orbitales selon une direction particulière pour au moins les plus grandes d'entre elles. Donc vous voyez qu'il y a ces deux échelles d'énergie, U et le couplage de Hund, qui définissent la physique de haute énergie du problème. Si on continue à descendre dans ce flot d'énergie, on va trouver ici, à peu près trois fois plus bas, le couplage spin-orbit, qui dans ce système est de l'ordre de 0,1 eV. Et puis finalement, à très très basse température, on va trouver l'échelle caractéristique de formation des quasi-particules de Landau, où tout est en le temps de vie, l'inverse du temps de vie est en oméga 2, etc. Et on va trouver que c'est, on voit, d'après les manips de transport, que cette échelle d'énergie est de l'ordre de 25 Kelvin. Donc vous voyez qu'ici, il y a trois ordres de grandeur en échelle d'énergie qu'il faut couvrir. Et il y a un petit peu deux approches pour faire ça. On peut, comme c'est le cas dans beaucoup de livres de physique de la matière condensée, et comme un peu j'ai commencé ce cours, commencer à décrire toute la fermiologie à basse température, et puis après essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe quand on inclut les interactions. Mais on peut aussi prendre un point de vue, qui est un point de vue complémentaire et différent, qui consiste à partir des hautes énergies, à comprendre la physique qui est induite par les interactions d'abord. Et ça, c'est ce qui va nous définir les multiplets atomiques d'une couche D4 avec U et J. Et ensuite, essayer de comprendre, quand on va le long du flot d'énergie vers les basses énergies, comment, avec le recouvrement des orbitales atomiques entre elles dans le solide, une physique de quasi-particules et de quasi-particules métalliques finit par émerger à basse température. Donc ça, c'est l'approche que... mon équipe de recherche en poursuit souvent, c'est-à-dire de commencer par comprendre la physique de haute énergie, de comprendre la nature des multiplets atomiques, et puis d'essayer de suivre ce flot en énergie vers les basses températures. Et la technique pour faire ça, c'est ces approches de théorie de champ moyen dynamique qui précisément partent des atomes dans le solide et des états propres des atomes isolés pour essayer de comprendre cette renormalisation vers les basses énergies. Bon, alors pour faire ça, il faut comprendre comment se comportent 4 électrons dans une couche T2G en présence de ces interactions. Et donc c'est ça que je vais vous montrer ici. Alors je vais passer un petit peu là-dessus, j'y reviendrai dans la suite. Je vous ai parlé dans les cours précédents de l'hamiltonien d'interaction qui était approprié à la description d'une... du triplet T2G et des différentes interactions en présence. Donc on a vu ça dans le cours, c'était dans le cours 3, je crois. On a vu qu'il y avait un U entre spin antiparallèle dans la même orbitale, un U' moins J, et que cet Hamiltonien de Hubbard-Kanamori était exact pour un multiplet T de G, et qu'on pouvait réécrire cet Hamiltonien, ça c'est juste un rappel du cours 3, on pouvait réécrire cet Hamiltonien en fonction des générateurs de charge, donc de la charge totale dans la couche, de générateurs de spin, et de l'opérateur de moment angulaire qui permet la rotation entre les trois types d'harmoniques cubiques qui constituent le multiplet T de G, donc une représentation du groupe SO3 des orbitales. Donc en fonction de ces trois générateurs, le Hamiltonien de Kanamori, que je montrais tout à l'heure, avec cette relation qui provient de la symétrie sphérique en plus, s'écrit comme ça, avec juste deux constantes de couplage, U et J. Alors, donc ça, c'est l'Hamiltonien pour ma couche atomique isolée, je n'ai pas mis les hoppings entre atomes, et quand je regarde les multiplets, c'est-à-dire les états propres de cet Hamiltonien, je trouve cette table qui est là, et évidemment, la composante de cette table qui nous intéresse le plus, c'est celle où il y a 4 électrons dans la couche, donc ça c'est le nombre d'électrons, N, ça c'est le nombre quantique de spin L, et ça c'est le S, et ça c'est le nombre quantique orbital L. Et donc le cas qui nous intéresse, c'est les états, le secteur de l'état fondamental, où il y a 4 électrons dans la couche T de G. Et vous voyez que, en l'absence de couplage de Hund, ce multiplet aurait une dégénérescence 15, 9 plus 5 plus 1. Mais en présence du couplage de Hund, c'est évidemment l'état avec S égale 1 et L égale 1, maximum, qui gagne. Et la dégénérescence de cet état n'est plus que 9. Donc le problème qu'on a ici, c'est 4 électrons dans une couche T de G qui, quand je prends en compte ces interactions U et J, me donne un multiplet dégénéré 9 fois, donc beaucoup d'états possibles. Et la question, c'est de savoir comment, quand on va brancher à partir de cette description les hoppings qui permettent le saut des électrons, eh bien cette dégénérescence va être levée aux bases d'énergie pour créer un état de type état métallique avec des quasi-particules. Alors, ce que vous allez voir dans la suite de ce cours, c'est qu'en fait, ce processus ne se fait pas de manière avec une seule échelle de crossover. Donc, si je reprends mon flot d'énergie ici, ici, quelque part, à très haute température, j'ai mes 9 états qui constitue le multiplet L égale 1, S égale 1. Et la question, c'est comment, quand je baisse l'énergie du système, je vais progressivement écranter, si vous voulez, ces degrés de liberté locaux. Et en fait, ce qu'on peut montrer dans ce système, c'est qu'il y a deux échelles d'énergie caractéristiques qui apparaissent. Une première échelle d'énergie qui est associée à l'écrantage ou à la suppression des degrés de liberté orbitaux, qui est très grande, qu'on peut estimer dans ce matériau comme étant, en gros, quelque chose comme 1000 K, donc à peu près la température, même un peu plus haut que la température où on entre dans le régime de mauvais métal. Et puis ici, une température caractéristique, où ce sont les degrés de liberté de spin qui finissent par ne plus fluctuer, et cette température est beaucoup plus faible. Elle est proche de la température, disons, de liquide de Fermi ou un peu supérieure. Donc comment est-ce qu'on peut voir ça expérimentalement? Ici, évidemment, on va avoir une susceptibilité magnétique de type poly. Mais ici, comme on va avoir des spins qui fluctuent, et des orbitales qui ne fluctuent pas, on s'attend à avoir une susceptibilité magnétique de type Curie-Weiss. Et effectivement, je vais vous montrer dans la suite que c'est bien ça qui se passe. Alors, je saute un petit peu, je vais peut-être vous montrer ça plus tard. Donc, voilà les deux crossovers dont je voulais parler jusqu'à maintenant, dont je parle ici. Et une susceptibilité magnétique de type Curie-Weiss. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer par différentes méthodes, mais en particulier, il y a ces mesures de résonance magnétique nucléaire qui, en regardant différents noyaux du système, en tenant compte des différents couplages hyperfins, permettent même de remonter aux différentes composantes orbitales qui contribuent à la susceptibilité magnétique. Et donc ça, c'est cet article, c'est une courbe qui est extraite de cet article de Imai de 98, où vous voyez la susceptibilité magnétique attribuée aux orbitales XY, et vous voyez clairement que dans tout ce régime de transport intermédiaire, dans ce régime de température intermédiaire qui était noir sur la courbe de transport tout à l'heure, donc entre environ 500 K et 30 ou 40 Kelvin, la susceptibilité qui XY est clairement pas polie, qui serait constant comme dans un métal, mais plutôt une forme de Curie-Weiss, ce qui indique des spins fluctuants. La susceptibilité qui YZ ou XZ n'est pas non plus exactement constante, mais elle est plus proche de polie. Elle a quand même une certaine dépendance en température. Donc ça indique clairement que dans ce régime de température intermédiaire, il y a des spins fluctuants dans le système. Alors, ceci étant dit, ça n'indique pas de manière directe que les orbitales, les degrés de liberté orbitaux dans ce régime intermédiaire de température n'ont pas de fluctuation. Et on a proposé, avec Yerné Moivier, qui est dans la salle ici, il y a quelques années, on a proposé qu'une mesure expérimentale disponible sur ce système révélait effectivement l'absence de fluctuations orbitales. Donc ça, c'est un article qui est paru relativement récemment, mais qui remonte à des travaux relativement anciens qu'on a fait ensemble, et qui part d'une observation sur ce système, et sur l'ensemble des ruthénates d'ailleurs, qui avait été faite dans le groupe, en particulier dans le laboratoire, au laboratoire CRISMAT à Caen, par Sylvie Hébert, et c'était la thèse de Klein ici, qui montrait que si je regarde le pouvoir thermoélectrique des ruthénates en fonction de la température, pour, non seulement pour strontium ruthénate 214, mais aussi pour d'autres ruthénates, on a un comportement qui est comme ça. À basse température, on a un comportement linéaire en T, ce qui est caractéristique du pouvoir thermoélectrique d'un métal, très petit, linéaire en température. Et puis quand on commence à atteindre ce régime de crossover intermédiaire qu'on voyait tout à l'heure en transport, on a un plateau du coefficient Seebeck avec une valeur qui est autour de 30 microvolts par Kelvin, qui est relativement grande pour un métal, qui est positive et qui, remarquablement, est à peu près la même dans tous les différents ruthénates, donc les différentes composantes de cette famille variée dont je parlais tout à l'heure. Et la question qu'on s'est posée avec Yerné, et que les collègues de Caen s'étaient d'ailleurs posés avant nous, est de savoir si cette valeur relativement universelle du pouvoir thermoélectrique dans les ruthénates révèle quelque chose de fondamental sur le système, ou si c'est juste un accident de la nature. L'explication qu'ils avaient proposée à l'époque, c'est la suivante. Si je regarde la dégénérescence de ce multiplet avec 4 électrons D dans la couche T2G des ruthénates, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si je regarde la dégénérescence totale, je trouve une dégénérescence 9. C'est ce qu'on a vu dans le tableau précédent. Mais si je tiens compte uniquement des degrés de liberté de spin, alors je trouve une dégénérescence plus faible, qui est seulement 3, qui est juste le fait qu'on a un spin 1. D'accord ? 2 fois 1 plus 1. On peut regarder également la dégénérescence des configurations voisines, qui consisterait à ajouter un électron ou enlever un électron, et on peut regarder ces dégénérescences, soit pour la dégénérescence totale, soit si on tient compte uniquement des degrés de liberté orbitaux ou des degrés de liberté de spin. Évidemment, la réponse dépend de ce que j'autorise à faire fluctuer dans le système ou pas. Alors, il se trouve que le coefficient Seebeck, alors ça, je ne vais pas vous expliquer en détail la physique du coefficient Seebeck, parce que j'y ai consacré 2 années de cours dans les années précédentes, mais il se trouve, juste pour résumer le point, que ce coefficient Seebeck, au moins pour des systèmes qui sont relativement localisés, donc plutôt pour des isolants, peut être relié aux dégénérescences de ces configurations. Et donc, une mesure du coefficient Seebeck, c'est quelque chose qui nous renseigne sur quelles sont les configurations fluctuantes dans un régime de température donné. Alors, si vous faites une estimation en utilisant ce qu'on appelle la formule de Hikers, peu importe les détails, si vous faites une estimation de ce coefficient Seebeck en supposant que dans ce régime, les spins et les orbitales fluctuent ensemble, vous trouvez une valeur du coefficient Seebeck qui est moins 17 microvolts par Kelvin, donc complètement en désaccord avec les résultats expérimentaux, négatifs. En revanche, si vous faites l'hypothèse, une hypothèse qui avait été faite par le groupe de Kahn, que seuls les degrés de liberté de spin fluctuent et que les degrés de liberté orbitaux ne fluctuent pas, vous trouvez une valeur qui, par une simple estimation tenant compte de ces dégénérescences ici, 2, 3 et 4, eh bien vous trouvez ici une valeur qui est tout simplement donnée par cette expression et qui est en très bon accord, au moins qualitativement, avec la valeur du coefficient Seebeck mesurée expérimentalement. Donc le message qui est là, c'est qu'effectivement, en combinant les observations la résonance magnétique nucléaire qui nous donne les différentes contributions orbitales à la susceptibilité et du pouvoir thermoélectrique, on peut se convaincre du fait que dans ce régime intermédiaire de température, on a effectivement des spins qui fluctuent, mais des orbitales qui ne fluctuent pas. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette séparation entre les deux échelles d'énergie caractéristiques pour les spins et les orbitales? Alors ça, c'est également une assez longue histoire qui vient justement du fait que c'est le couplage de Hund qui est responsable de la physique de ces systèmes. Donc, vous avez vu dans la Hamiltonienne d'interaction, donc je vais essayer de résumer brièvement cette histoire parce que le temps passe. Vous avez vu que dans la Hamiltonienne d'interaction, le couplage de Hund jouait un rôle crucial. C'est lui qui levait la dégénérescence de 15 à 9. Et on a vu également au cours 3 que ce couplage de Hund avait un rôle très important pour comprendre quelle était la valeur critique de U ou de la largeur de bande nécessaire pour obtenir un isolant de Mott. Donc, je vous rappelle brièvement l'argument. C'est un argument qu'on a vu au cours 3. On a vu qu'en présence d'un couplage de Hund, si on faisait une simple estimation des énergies de transfert de charge pour changer la valence de n à n plus 1, eh bien on voyait que dans le cas d'une couche demi-pleine, le couplage de Hund baissait très fortement la valeur critique de l'interaction, alors que dans le cas d'une couche qui n'était pas demi-pleine, le couplage de Hund avait tendance, au contraire, à augmenter la valeur du U critique. Donc ça, c'était un aspect du couplage de Hund qu'on a vu au cours 3, qui éloigne la transition de Mott en la poussant, pour une couche non demi-pleine, à des valeurs de U critique très grandes. En fait, c'est la raison pour laquelle ces ruthénates ne sont pas proches d'une transition de Mott. C'est une couche qui n'est pas demi-pleine, et le critère de la transition de Mott que vous pouvez estimé à partir de ces simples estimations qui sont ici, eh bien, nous donnerait une valeur de U critique beaucoup, beaucoup plus grande que 3 électronvolts. Donc, pouvez-vous vous convaincre de cette manière qu'effectivement, ces matériaux ne sont pas proches d'une transition de Mott. Alors, s'ils ne sont pas proches d'une transition de Mott, comme je posais la question au début du cours, pourquoi ont-ils ces signes de forte corrélation? Alors, ça, c'est parce que cette histoire-là, ce n'est qu'un visage du couplage de Hund. Il y a en fait un deuxième aspect. Et ce deuxième aspect, il est résumé sur ce transparent, qui est un graphe extrait d'un article de revue qu'on a écrit avec Luca de Medici, qui vient d'entrer dans la salle, et Yerney, qui vous montre la renormalisation de masse effective. Alors ce Z ici peut être interprété comme le poids spectral des quasi-particules ou comme M sur M étoile, donc l'inverse de la renormalisation de masse effective, en fonction de U, pour différents couplages de Hund, dans le cas d'une couche T2G avec 4 électrons, comme approprié pour les ruthénates. Alors, si vous regardez cette représentation, ce que vous voyez, c'est que quand il n'y a pas de couplage de Hund, donc J égale 0, on a une masse effective qui augmente, qui va finir par devenir très grande et diverger, au point de transition de Mott ici, qui est le point noir. Quand vous branchez le couplage de Wundt, ce qui se passe, c'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, la valeur critique de U est considérablement augmentée, donc elle va être ici à des valeurs très grandes et irréalistes pour ce matériau de U, mais en même temps, la renormalisation de masse effective augmente, ou le Z diminue, quand on augmente le couplage de Wundt. Donc il y a deux effets du couplage de Wundt. Un effet qui est de pousser la transition de Mott jusqu'à des très grandes valeurs de U, et un effet qui est, dans la phase métallique, de donner une augmentation de la masse effective des quasi-particules, qui est une augmentation rapide au fur et à mesure qu'on augmente le couplage de Wundt J. Alors, en fait, on peut résumer tout ça, si vous voulez, en disant que, alors ça, c'est un peu amusé dans cet article, on peut résumer tout ça en disant que le couplage de Wundt, il a deux visages. Il a un visage qui pousse la transition de Mott à des grandes valeurs, donc il va avoir tendance à éloigner le système de la zone de transition de Mott, mais il a un autre visage qui a tendance à corréler les quasi-particules, à donner des quasi-particules lourdes. Et c'est pour ça que, dans ce système, on n'est pas près d'une transition de Mott, mais on a des quasi-particules qui sont des quasi-particules lourdes et des fortes corrélations électroniques. Dans cet article de revue, on a résumé tout ça dans une sorte de diagramme de phase, enfin, ce n'est pas vraiment un diagramme de phase, mais plutôt une sorte de cartographie, dans laquelle, alors je vais passer quelques minutes à expliquer cette cartographie, parce qu'elle est un petit peu assez riche, donc ça demande un peu d'explication. Donc ce qu'on a représenté ici, dans cette carte, c'est le remplissage graduel de la couche D, de la couche T de G, depuis une couche T de G complètement vide, 0 électron, jusqu'à une couche T de G complètement pleine, donc au maximum 6 électrons. Donc ça, c'est l'axe des X. Selon l'axe des ordonnées ici, vous avez la valeur de U normalisée à la demi-largeur de bande du système, qu'on a appelé ici D, et les barres noires ici vous indiquent la valeur de U sur D qui correspond à l'isolant de Mott. Donc vous voyez le premier aspect du couplage de Wundt, qui est que pour une couche demi-pleine, c'est-à-dire 3 électrons dans une couche T de G, eh bien c'est très facile de faire un isolant de Mott, le U critique est très faible, alors que pour des couches non demi-pleines, eh bien le U critique sur D est beaucoup plus grand. Les croix ici sont les valeurs que vous obtiendriez en absence du couplage de Wundt. Donc vous voyez comment le couplage de Wundt est efficace pour baisser le U critique ici, et au contraire ici pour éloigner le U critique de la zone de couplage faible. Donc ça, c'est la première observation. C'est le premier visage, si vous voulez. C'est la manière dont le couplage de Wundt change la transition de Mott. Le deuxième visage, il est donné par le code de couleur de cette courbe. Une couleur bleue intense, ça veut dire des quasi-particules très faiblement renormalisées par rapport à l'absence d'interaction, donc une masse effective de l'ordre de 1, de l'ordre de la masse de bande. Peut-être on aurait dû choisir un code de couleur inverse, où ce soit la couleur claire qui représente ça, mais enfin, peu importe. Et en revanche, une couleur très blanche, ça représente une très forte renormalisation de la masse effective. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que si vous avez une couche demi-pleine, eh bien, les métaux fortement corrélés, qui auraient une masse effective importante, c'est forcément des métaux qui sont proches de la transition de Mott ici. En revanche, si vous avez une couche non demi-pleine, comme occupée par 4 électrons dans le cas des ruthénates, vous avez une très large zone ici, qui a des renforcements de masse effective très grandes, donc des quasi-particules palottes, d'accord. Néanmoins, vous pouvez être très loin de la transition de Mott. Donc toute cette zone claire ici, c'est ce qu'on pourrait appeler, et c'est ce que Christian Aulet et Gabi Cotliard ont appelé, des métaux de Wundt. Ce sont des métaux qui sont corrélés, non pas en raison de leur proximité d'une transition de Mott, mais à cause de l'abaissement de l'échelle de cohérence des quasi-particules par le couplage de Wundt. Et c'est un concept qui est assez général, qui ne s'applique pas qu'aux ruthénates, mais qui a aussi été proposé en particulier par le groupe de Rutgers comme étant la raison des fortes corrélations dans les supraconducteurs à base de fer. donc les tinctures de fer, les chalcogénures de fer, etc. Donc ça, c'est la deuxième observation. Donc, vous voyez sur cette carte les deux visages du problème et cette zone claire qui est la zone des métaux de Hund. Et la troisième chose qu'on a essayé de montrer sur cette carte, alors il faut prendre ça avec un grain de sel, parce qu'évidemment cette carte, elle ne prend pas en compte certains aspects essentiels, comme les levées de dégénérescence du champ cristallin du multiplet T2G dont j'ai parlé dans d'autres cours. Ce qu'on a placé sur cette carte, c'est différents matériaux de la série des métaux de transition 3D et de la série des métaux de transition 4D. Donc ce que vous voyez clairement ici, bien sûr, c'est que les métaux de transition 3D, ils ont typiquement des valeurs de U sur D qui sont beaucoup plus grandes, parce qu'ils ont des U plus grands, par exemple pour les vanadates, on a vu de l'ordre de 3 à 5 électronvolts, et des largeurs de bande plus petites, des largeurs de bande peut-être de 2 à 3 EV, et donc ils vont être situés par ici. En particulier, si vous avez une couche demi-pleine, c'est sûr qu'un tel matériau va être un bon isolant de Mott. Et c'est le cas de strontium MnO3, qui est une couche manganèse 4+, avec un spin 3,5, et une couche T2G demi-pleine et un bon isolant de Mott. Donc ils vont se situer par là. En revanche, les métaux de transition 4D, comme ces ruthénates, ils vont se situer à des valeurs beaucoup plus faibles de U sur D. Et vous voyez en particulier toutes les indications qu'on peut avoir sur U et sur D ici, nous disent que strontium ruthénate, enfin que les ruthénates dont je parle ici, sont dans cette zone. Donc ils sont très loin de la transition de Mott, mais ils ont des fortes corrélations à cause du couplage de Hund. Donc voilà un petit peu comment on peut mettre ensemble ces différents visages du couplage de Hund pour faire une sorte de cartographie pour se repérer dans les différents oxydes et savoir un petit peu où ils sont positionnés dans cette carte, qui vous renseigne à la fois sur la distance de la transition de Mott et le renforcement de masse des quasi-particules. Alors, qu'est-ce que je veux vous raconter d'autre sur ce problème pour finir ce cours, je voudrais vous parler un petit peu de couplage spin-orbite. J'ai encore une dizaine de minutes. Je vais vous parler un petit peu de couplage spin-orbite. Jusqu'à maintenant, on a complètement oublié le couplage spin-orbite dans cette description, et tout a l'air de marcher relativement bien, sans mettre le couplage spin-orbite. Or, il y a des évidences expérimentales très claires que le couplage spin-orbite est important dans ce système. En particulier, si vous regardez la surface de Fermi que je vous montrais tout à l'heure, eh bien, il y a des points, par exemple, selon la direction gamma x, où le feuillet bêta et le feuillet gamma sont presque dégénérés, alors que dans les expériences de photoémission ou d'oscillation quantique, eh bien, en réalité, ces deux feuillets sont plus éloignés l'un de l'autre que vous ne trouveriez dans un calcul de structure électronique qui ignore le couplage spin-orbite. Donc il est clair que dans ce système, le couplage spin-orbite lève des dégénérescences et a son importance. Ceci étant dit, le couplage spin-orbite, c'est une échelle d'énergie qui est relativement petite, à la fois par rapport à U, par rapport à J, et par rapport aux principales intégrales de transfert T dans le système. C'est quelque chose qui est de l'ordre de 0,1 EV. Quelque chose comme ça. Alors voilà par exemple une référence expérimentale qui est une des plus récentes, qui a utilisé des expériences de photoémission résolu en angle et polarisé en spin, qui montre clairement l'importance du couplage spin-orbite près du point gamma. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, l'importance du couplage spin-orbite a donc été réalisée et étudiée théoriquement. Et là, j'ai mis deux références, l'une qui est déjà publiée, qui est un article du groupe de Eva Pavarini et Gorelov à Jülich. Et l'autre qui est en préparation, et les figures que je vais vous montrer, donc par Min-jae Kim, qui est ici quelque part dans la salle, et qui est aussi sur cette photo, et Yannay Mravlier qui est ici, sur l'effet du couplage spin-orbite dans ce système. Alors comment ça marche, le couplage spin-orbite? D'abord pour introduire un petit peu comment l'introduire dans le Hamiltonien. Donc ça marche de la manière suivante. Si vous regardez les matrices qui représente le moment angulaire dans une couche D exprimé dans les orbitales, dans les harmoniques cubiques, donc les 3 harmoniques cubiques du multiplet T2G et les 2 harmoniques cubiques du multiplet EG. Vous voyez que ces matrices du moment angulaire ont ces expressions-là, donc pour la couche D complète. Et ce que vous pouvez observer, c'est que les sous-matrices ici 3-3 qui représentent l'action du moment angulaire dans le multiplet T2G, eh bien, à un signe près, coïncident avec les générateurs d'une représentation L égale 1, donc on pourrait appeler P en langage de chimiste, si vous voulez, de SO3. Alors ça, ce n'est pas étonnant, ce sont précisément les générateurs L que j'avais dans le l'hamiltonien de Hubbard-Kanamori, qui, comme il y a 3 orbitales, hein, forment une représentation L égale 1 du groupe SO3. Donc vous voyez qu'effectivement, ces générateurs ici sont égaux à ceux qu'on aurait pour une orbitale P à un signe près. Alors cette observation permet de facilement réécrire le couplage spin-orbite. Le couplage spin-orbite, c'est simplement ça. Hein. C'est un opérateur à un corps, un potentiel dépendant du spin et des orbitales qui agit sur mes électrons. Et donc je peux le réécrire comme moins lambda fois ces matrices L égale 1, que j'ai appelé ici LP, P comme L égale 1 si vous voulez, fois S. Et donc finalement c'est quelque chose qui va s'écrire de cette manière, où ça c'est les matrices de Pauli pour le spin 1/2, et ça c'est les générateurs, donc ces blocs ici, qui sont les générateurs L égale 1 du groupe SO3. Alors, vous pouvez dérouler tout ça. Maintenant, évidemment, ça devient une matrice 6-6 qui, en fait, se décompose en deux blocs 3-3 à cause de la multiplicité de Cramers. Et donc, vous voyez que le couplage spin-orbite, qui est ici individualisé par des lettres différentes, lambda XY et lambda Z, mais si vous prenez cette expression, il y a en fait une seule constante de couplage et elles sont toutes égales. Eh bien, le couplage spin-orbite, il va, par exemple, coupler l'orbital XY spin-up avec les orbitales YZ spin-down et XZ spin-down. Et puis, il y a aussi des couplages qui couplent, par exemple, l'orbital YZ spin-up à l'orbital XZ même spin-up. En fait, il y a, en tenant compte des interactions, la possibilité d'avoir deux couplages spin-orbite, un de type Ising et un de type XY, si vous voulez. Bon, alors, quand on fait ça, on peut introduire ce couplage spin-orbite dans ces calculs qui tiennent compte maintenant de l'interaction de Hubbard, du couplage de Hund et du couplage spin-orbite. Et je vais vous montrer une figure non publiée qui donne la structure de bande de ce système selon la direction gamma m et selon la direction gamma x, ici, et qui vous montre plusieurs choses. D'une part, le calcul des bandes de quasi-particules calculées par des méthodes de type champ moyen dynamique, une comparaison aux résultats expérimentaux de photoémission, qui sont donc les points violets ici, et qui met en lumière le fait que, par exemple, ici au point gamma, si vous faites un calcul en l'absence de couplage spin-orbite, eh bien vous avez une dégénérescence de ces bandes au point gamma, et en présence de couplage spin-orbite, il y a ici une levée de dégénérescence qui est prise en compte par le couplage spin-orbite. Et également ici, vous voyez qu'il y a pratiquement ici un croisement de bande qui n'est pas exact, mais ici, il y a une répulsion de niveau qui est due au couplage spin-orbite, et tout ça peut être comparé aux expériences de manière relativement satisfaisante. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé du couplage spin-orbite ? Parce que c'est important de prendre conscience du fait que, bien que les degrés de liberté orbitaux ne fluctue pas dans ce régime. Quand on tombe dans le régime de basse énergie ici, où on retrouve des quasi-particules cohérentes, elles sont néanmoins sensibles au couplage spin-orbite, et que ce couplage spin-orbite a aussi son importance pour comprendre vraiment la nature de la phase supraconductrice, dont je ne vais pas parler dans ce cours. Bon, je vais passer là-dessus. Pareil pour la surface de Fermi, vous pouvez voir qu'il y a ici cette levée de dégénérescence selon la direction gamma x. Et finalement, pour conclure ce cours sur le Rutanat, je voudrais juste signaler un certain nombre de sujets dont je n'ai pas parlé, puisque j'ai choisi de faire le cours pour vous présenter une introduction à la structure électronique du bulk, disons, sachant que Darrell va nous parler d'hétérostructures dans son cours. Il y a beaucoup de travaux sur les hétérostructures de Rutanat qui vont dans différentes directions. Je pense qu'on va en entendre parler tout à l'heure dans le séminaire, l'une de ces directions, c'est le contrôle du ferromagnétisme, par exemple, dans les ruthénates 1-1-3. Et une des choses que je trouve assez remarquable et surprenante dans ce type de travaux, c'est qu'on peut apparemment stabiliser strontium ruthénate 1-1-3 en film mince jusqu'à des monolayers, m'a dit Darrell hier. Dans cet article, on dit deux couches, mais apparemment même pour une seule couche, tout en gardant le système métallique. Ce qui est tout à fait remarquable, puisque, comme vous avez vu dans le premier cours, dans beaucoup de systèmes, quand on tombe en dessous de 3, 4 ou 5 couches atomiques, on a des isolants. C'était le cas, par exemple, dans LNO et dans SVO, dans beaucoup de systèmes. Dans ce cas-là, au contraire, on peut garder un système métallique et magnétique, ce qui est relativement remarquable. Voilà, bon, je vous remercie. Et on prend une pause d'un quart d'heure. On va commencer à 11h35, disons, avec le séminaire de Darrell. Donc, merci. On fait comme d'habitude.